Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Lecture par tous vous emmène aujourd'hui pour un séjour souterrain. Vraiment souterrain. Nous allons en effet suivre les protagonistes du dernier roman de Mark Woltenhauer, l'un des auteurs vedettes du monde du polar en Confédération helvétique. Celui-ci nous entraîne en effet, avec tout son monde, au cœur des salines de B, dans les pas, entre autres, d'un autre écrivain, Alexandre Dumas. C'est le quatrième roman de Mark Woltenhauer, après Le Dragon du Muvran, Qui a tué Heidi et L'Aigle de sang. Il a pour titre Les Protégés de Sinklinga. Tous ces titres sont publiés par Slatkin et compagnie. Voici ce que nous précise la quatrième de couverture de ces protégés. Le 16 mai 1826, Aaron Salzberg descend d'une diligence sur la place de B. Il a quitté sa Pologne natale pour travailler dans les mines de sel qui font la notoriété de la petite ville suisse. Son exil dans les Alpes vaudoises va tourner à la tragédie. Près de 2 siècles plus tard, l'inspecteur Andreas Hauer est appelé en urgence. Un homme, déguisé en charlot, retient des otages dans la mine. Parmi eux, les élèves d'une classe de l'enseignement secondaire. Le conte à rebours commence. Entre prise d'otages et histoire, les préjugés, les rivalités et les idéalismes radicaux vont mener une danse inquiétante dont nous ne nous livrerons bien entendu pas l'issue. Par contre, nous avons joint l'auteur pour qu'il nous en dise un peu plus sur ce polar qui est à sa façon un polar confiné. Alors, nous sommes en communication avec Mark Woltenhauer. Bonjour Mark Woltenhauer.
Bonjour Marc.
Bonjour. Alors, vous êtes réfugié, si je puis dire, en ces périodes difficiles dans le village de Grillon.
Oui, absolument.
C'est un lieu pas mal en période de confinement. C'est pas désagréable.
Alors, c'est loin d'être désagréable. C'est vrai que d'être dans un petit village de montagne, ça permet en tout cas d'être... loin de, de tout ce qui se passe dans les villes. Malgré tout, c'est quand même une période assez propice à l'écriture.
Vous devez en profiter. En plus, j'imagine que vous avez une vue sur les Muvrans depuis chez vous
Absolument. Je suis en train de le regarder, sauf qu'il est un tout petit peu couvert par le brouillard ce matin, mais ça devrait se dégager.
Il a son chapeau, je crois, hein, comme on dit. Alors,
exactement.
Voilà. Alors, on n'est pas là pour parler de nature, même si elle occupe une place importante dans vos romans, mais de littérature, et plus particulièrement donc de votre dernier roman qui est sorti à l'été, hein, Les Protégés de Sinklinga. Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, c'est votre quatrième roman. Hein, il y avait eu Le Dragon
Absolument.
Du Muvran en 2015, puis depuis Qui a tué Heidi en 2017, L'Aigle de sang, c'était l'année dernière, et puis donc cette année, Les Protégés de Sinklinga. J'ai vu qu'il y avait aussi un livre jeunesse qui était paru entre-temps.
Oui, tout à fait. C'est une nouvelle collection qui a démarré l'année passée, qui s'appelle Frissons Suisses. Ce sont des auteurs suisses qui écrivent pour les enfants, des romans policiers ou des romans à frissons. C'est prévu pour les 10-12 ans. Et puis, j'ai eu la chance de faire partie du démarrage de cette collection avec mon collègue Nicolas Feutz. Et puis, j'en ai un deuxième, justement, qui sort dans la même collection au mois de mars. Donc, c'est aussi une chouette aventure de pouvoir écrire pour les enfants.
D'accord. Nicolas Feutz, avec qui vous étiez venu à Montpellier pour la comédie du livre helvétique, hein, et puis qui a droit à un petit clin d'œil dans ce dernier roman, si j'ai bonne mémoire.
Absolument. Ce qui est vrai aussi, à l'inverse, dans son dernier roman policier, il y a aussi un petit clin d'œil. On fait ça assez régulièrement entre les deux.
D'accord. Voilà. Nicolas Feuze, rappelons pour nos éditeurs, qui est procureur à Neuchâtel et qui est aussi auteur de Polar. Hein, on l'avait interviewé pour cette émission. Alors, votre personnage, c'est ce qu'on appelle un personnage récurrent. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce personnage de policier, Andrea Sauer ?
Andrea Sauer, effectivement, il est présent depuis le départ. Il est inspecteur à la police cantonale vaudoise. Il habite à Grillon avec son compagnon Michael, qui est journaliste. Dans les deux premiers romans, on est vraiment dans une intrigue qui se passe dans le village de Grillon et les alentours. Dans le troisième livre, par contre, c'est un peu différent puisque Andreas part en Suède. Il a des racines suédoises. Et en fait, il y part pour faire des recherches sur ses origines parce qu'il y a quelques éléments inconnus dans sa vie et il aimerait découvrir en fait d'où il vient tout simplement. Puis bien sûr, qu'en allant sur cette île de Gotland en Suède, tout ne va pas se passer comme il avait imaginé. Et puis surtout, en fait, il va découvrir que son passé est lié notamment à une ancienne affaire criminelle qui n'a pas été résolue, et puis il va enquêter en terre suédoise. Et puis pour ce quatrième, il revient chez lui. Et puis cette fois, ça se passe dans les mines de sel de B.
Voilà, alors les célèbres, je ne sais pas si elles sont célèbres pour tout le monde, hein, les salines de B. Comment vous est venue l'idée de planter votre décor sous terre?
Ça faisait déjà, je dirais, 3-4 ans que j'avais en tête ces mines de sel. Ce sont les seules mines de sel souterraines en Suisse, un endroit assez incroyable, surtout quand on a l'occasion d'aller se promener dans les anciennes galeries qui ont été creusées à partir de la fin du XVIIe siècle, qui sont vraiment, vraiment impressionnantes. Donc c'est un endroit qui me fascine et je me suis dit que ça pourrait certainement faire le cadre d'un roman policier. Et puis au-delà finalement du lieu lui-même, ce qui est extrêmement intéressant, c'est toute l'histoire qui va avec, à savoir les débuts des mines de sel justement au XVIIe siècle. Tout ce que ça a généré aussi par rapport à la région, l'importance du sel qui avait une valeur importante à ce moment-là. Et voilà, pour moi, c'était une manière aussi de creuser dans ce passé de la région. Et ça a été aussi une aventure assez fantastique de me replonger là-dedans.
Alors oui, vous dites creuser, c'est le cas, c'est le cas de le dire, si on peut se permettre. Mais vous avez aussi creusé donc dans l'histoire. Hein, le prologue du roman raconte la légende de la découverte des mines de sel. Hein, vous dites c'était il y a longtemps, fort longtemps. Mais vous remontez aussi dans l'histoire et j'ai trouvé que par rapport au on le trouve déjà dans l'Aigle de sang, où il y avait un ancrage dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Là, vous allez chercher l'ancrage historique encore un peu plus loin, en faisant intervenir un personnage bien réel, qui est Alexandre Dumas.
Oui, effectivement, c'est ce qui m'a aussi fasciné dans toutes les recherches que j'ai faites sur ces mines de sel, et sur notamment la ville de B, qui était... connue non seulement en Suisse mais aussi à l'étranger et en France, parce que le fait qu'il y ait ces mines de sel, il y a eu aussi le développement de bains thermaux et puis de nombreuses personnes ou personnalités françaises sont venues à Bay pour des cures de bains de soufre, de bains de saumure. Et puis Alexandre Dumas, lui, était venu pour une autre raison, c'est qu'il a sillonné la Suisse pour écrire ses impressions de voyage. Et il a été aussi à B, et notamment On pense qu'il a été visité les mines de sel de B. C'est confirmé parce qu'il a signé de sa plume le registre des gens qui entraient dans les mines. Par contre, la manière dont il le raconte, on se demande si réellement il les a visités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la manière dont il le raconte, il a fait preuve de beaucoup d'imagination et su mettre en scène sa visite dans les mines de sel.
Et puis vous reprenez donc le guide qui est anonyme dans le récit de Dumas devient un personnage central de votre roman. Je laisse les lecteurs découvrir. Alors, il n'y a pas eu que ça, il y a eu un gros travail de recherche dans les archives aussi.
Oui, dans les archives cantonales, mais pas seulement. Bien sûr que pour creuser dans toute cette histoire, il a fallu trouver des sources. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur pas mal d'articles qui parlent de l'époque. Mais j'ai aussi effectivement été dans les archives, notamment pour aller voir d'anciens plans pour essayer de mieux comprendre comment était la région à cette époque-là, parce que comme une grande partie de l'histoire finalement se passe entre 1826 et 1835, l'enjeu c'était aussi de transporter le lecteur dans cette période et qu'on se rende compte qu'on est 200 ans plus tôt. C'était un peu un défi finalement aussi pour moi d'écrire toute cette partie historique, mais c'était vraiment passionnant.
Peut-être précisons quand même l'intrigue qu'il y a, parce que nos auditeurs pourraient croire que c'est un roman purement historique. Non, ça se passe bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ne pas spoiler, comme on dit, le roman? Bon, une prise d'otage dans les salines de B. Du coup, un roman un peu confiné, puisque on va très peu sortir des mines pendant cette... Alors, à la fois enquête et puis à la fois situation de crise. Et puis on va découvrir l'importance de l'histoire. Alors, est-ce que c'est un roman pour vous vraiment un roman suisse, on va dire comme ça, ou un roman simplement qui se passe en Suisse?
Alors, je pense qu'il y a... D'un côté, c'est un roman qui se passe en Suisse, dans la région du Chablais, comme aussi les précédents livres, à part L'Aigle de sang qui se passe en Suède. Mais je pense qu'il y a toujours une dimension universelle, parce que finalement, même si les récits sont très enracinés dans les lieux, et puis on peut se promener dans les lieux parce qu'ils sont décrits de manière... réaliste, je dirais, mais par contre, le fond de l'histoire elle-même pourrait se passer à bien des endroits, et justement parce qu'il y a peut-être une dimension assez universelle finalement dans les thématiques aussi sous-jacentes qui sont traitées au-delà de l'affaire policière elle-même, au-delà de cette prise d'otage dont vous avez parlé.
Alors, avec vous, les quatre romans, j'ai l'impression que plus ça va, plus vous élargissez votre cercle. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que la Suisse Grillon devient trop petit pour vos romans, pour vos décors?
Alors, c'est vrai que Grillon est un petit village de 1000 habitants. Et je m'étais effectivement fait la réflexion après les deux premiers, Le Dragon du Muvron et Qui a tué Heidi, qu'il y avait déjà eu pas mal de morts pour ce petit village, et puis qu'il fallait peut-être les laisser tranquilles un certain temps, ce qui était finalement en Suède, avant de revenir. Et puis, je ne délaisse pas complètement Grillon, puisque Grillon est toujours présent, même dans cette quatrième intrigue, mais peut-être plus le lieu central, comme c'était le cas dans les deux premiers.
Vous êtes avec Lecture par tous sur Divergence FM 93.9. Tout de suite, la suite de notre entretien avec Marc Woltenhauer qui nous parle de son dernier roman, Les Protégés de Sainte Klinga. Vous êtes aussi de plus en plus, il me semble,
raccrochait à l'actualité. On l'avait vu dans Tuaïdi, c'était des intrigues immobilières, hein, des trafics immobiliers qui se passaient autour du village. Et on allait jusqu'en Russie, si j'ai bonne mémoire. Et puis là, c'est la question de l'extrême droite qui apparaît. Alors, en France, on n'a pas cette représentation qu'il y a une extrême droite en Suisse. C'est une actualité dont on parle beaucoup ou c'est quelque chose de marginal, hein?
Alors, je dirais l'activité de groupe vraiment d'extrême droite est relativement marginale en Suisse. Mais elle existe et c'est vrai qu'on a peut-être on en parle peut-être plus en Allemagne, en France ou en tout cas c'est peut-être plus relayé dans les médias avec des groupes qui sont assez actifs mais c'est quand même une donnée qui est présente en Suisse de manière extrême, notamment dans certains groupuscules, mais aussi le discours, on le retrouve dans certains partis politiques, peut-être pas de manière aussi extrême que dans ces groupuscules, dont notamment un dont je parle dans le livre, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Et je pense qu'il y a peut-être aussi là derrière l'idée de montrer que en Suisse, on n'est pas toujours différent des autres ou privilégié, mais que c'est aussi des tendances qui sont présentes, et puis on espère qu'elles vont pas se développer.
Alors, il y a aussi on parlait de références historiques. Il y a une référence qui revient régulièrement, qui est liée à l'histoire du cinéma, entre autres, mais pas seulement. C'est la référence à Chaplin et au film Le Dictateur. Qu'est-ce qui vous séduit particulièrement dans ce film pour en faire un des points d'appui importants du roman?
Alors, on a effectivement un personnage qui est important dans le livre, qui est un des preneurs d'otages. Dès le départ, en fait, il est déguisé en Charlot. Et puis, avec cette particularité, c'est qu'il ne communique pas oralement avec la police, mais il communique par mime principalement, aussi par des messages écrits, ce qui complique bien sûr la tâche de la police. Charlot, il y a plusieurs raisons. C'est que Charlot est un personnage, ou Charlie Chaplin en tout cas a vécu dans la région. Maintenant, nous avons aussi un musée Charlie Chaplin qui est d'ailleurs magnifique à Vevey. C'est une dimension qui est présente ici dans cette région suisse. Et puis finalement, ce qui est intéressant, c'est que le livre traite de cette question de l'extrême droite, des discriminations de manière négative, mais vu de le côté positif, c'est aussi la défense d'un certain nombre de droits humains, de droits sociaux. Et Charlie Chaplin, dans tous ses films, c'est une dimension qui est extrêmement présente. Donc ce preneur d'otages, il va aussi s'appuyer sur les films de Charlie Chaplin pour communiquer un message, finalement.
Alors, je me disais, en lisant votre roman, vous parliez un peu de volonté d'avoir des problématiques comme ça un peu universelles. Est-ce que c'est pas aussi un roman qui nous parle du danger ou du terrible pouvoir de l'idéalisme?
Alors, de l'idéalisme, ou en tout cas, je dirais, de la question des convictions trop marquées. Il y a notamment une phrase de Socrate que le preneur d'otage auquel le preneur d'otage fait référence, qui dit en gros tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et l'idée là derrière, c'est de dire que c'est important de garder une attitude ouverte, d'être prêt à se remettre soi-même en question, de remettre en question ses connaissances. Et ne pas s'enfermer dans ses certitudes. Et c'est vrai que la problématique, notamment de l'extrême droite, c'est que finalement, on s'enferme dans des certitudes. On craint peut-être aussi de se laisser de se laisser interpeller par d'autres éléments qui iraient contre les convictions qu'on a. Et je pense que on tourne dans tout le livre dans cette idée-là de se dire, mais finalement, quelle est la posture que chacun a face à ce genre de questions. Est-ce qu'on s'enferme dans ses convictions ou au contraire, est-ce qu'on est ouvert à l'autre, ouvert à peut-être voir les choses d'une manière différente que celle qu'on a naturellement.
Alors, ce quatrième roman, donc vous devenez, vous êtes devenu un écrivain chevronné, on va dire. Qu'est-ce qui se déplace pour vous? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce roman ou qu'il y a eu de différent dans l'écriture de ce roman par rapport au précédent? Et puis peut-être aussi, comment il a été reçu en Suisse?
Ce qu'il y a de différent, j'ai le sentiment que d'un livre à l'autre, il y a aussi, je dirais, une progression à la fois dans l'écriture et dans la manière de construire les intrigues, ce qui est naturel dans un sens, puisque d'un livre à l'autre, j'ai l'impression de gagner en expérience. Mais c'est aussi, je dirais, une posture, un postulat, c'est que j'ai envie de m'améliorer, notamment au niveau de l'écriture. Donc je travaille aussi avec quelqu'un, une correctrice qui est très très douée en français. Donc on travaille sur le rythme, on travaille sur le vocabulaire, sur la stylistique. Et plus j'avance, plus c'est quelque chose que j'aime faire, de travailler sur le texte. Donc en général, quand j'ai terminé d'écrire le livre, je passe encore plusieurs semaines, voire 2-3 mois, que sur le fait de travailler sur le texte lui-même. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans le domaine de l'écriture. Et c'est vrai que pour l'instant, vous avez posé la question sur comment le livre a été reçu. Les retours ont été très positifs et ça me fait bien sûr très plaisir d'avoir ces retours-là. Les gens se rendent compte aussi que ce quatrième est peut-être un peu différent dans sa construction que les autres. Et je pense que ça tient aussi au fait que dès le départ pour moi dans ce livre, il y avait une intention aussi de travailler sur ce message, de travailler sur une problématique sociale qui existe, alors que peut-être dans les premiers livres, les thématiques qui en ressortent étaient intégrées de manière plus intuitive, alors que pour ce quatrième, il y avait une réflexion à la base qui était là et des envies, je dirais, de thématiques à développer.
Oui, puis le personnage d'Andreas Auer me paraît un petit peu plus en retrait que dans les romans précédents. Il est moins isolé. Bon, il n'était jamais complètement seul, mais là, il est un peu plus noyé dans le contexte. Et puis son compagnon Michael est aussi plus en retrait, alors qu'il était très présent dans les premiers romans. Donc oui, il y a quelque chose qui, effectivement, moi, je voyais évoluer dans ce sens, dans le sens que vous dites, effectivement. J'imagine, ça fait quelques mois que ce roman est terminé, alors vous devez mettre à profit pour travailler sur le suivant, non, en ce moment, ce temps un peu particulier.
En fait, depuis que le précédent a été terminé, les protégés de Sankinga, j'ai écrit ou co-écrit avec mon compagnon le prochain Polar Jeunesse. Donc c'est quelque chose qui nous a occupé cet été. On est en train de le finaliser. Par contre, c'est clair que l'idée du prochain trotte dans ma tête et je vais assez rapidement m'y remettre parce que je me rends compte que s'il y a une période trop longue où je suis pas dans l'écriture et que je ne me replonge pas dans une nouvelle aventure avec mes personnages, ça me manque.
Bien, alors vous n'allez, j'imagine bien, rien dévoiler sur ce qui est en train de s'écrire. On le découvrira en librairie
dans quelques mois. Bien, eh bien, merci beaucoup, Marc Woltenhauer, de ces quelques minutes que vous nous avez consacrées. On souhaite une bonne aventure dans les librairies aux protégés de Saint-Klinga. On recommande à nos auditeurs aussi d'aller se plonger au fond des salines de baie et au-delà, jusqu'à la Pologne, hein, puisque je ne dis pas pourquoi, mais ça va aller jusqu'en Pologne, cette affaire-là. Merci.
Absolument.
Voilà. Merci à vous et à bientôt, j'espère.
Merci beaucoup, Marc. Merci et puis au plaisir.
Ainsi s'achève l'entretien que nous avons eu avec Marc Woltenhauer au sujet de son dernier roman « Les protégés de Saint-Klinga » publié par Sletkin et compagnie. Avant de vous quitter, nous voudrions évoquer un aspect de ce roman que nous n'avons pas développé dans la conversation que nous avons eue. En effet, l'on s'imagine souvent le travail de l'écrivain comme un travail solitaire. Or, il n'en est rien. Si vous avez entendu évoquer l'importance du travail de finalisation du texte avant l'impression finale et de la recherche en amont, un peu comme au cinéma où il y a repérage et pré-production en amont du tournage, puis post-production en aval, les collaborations sont ici presque aussi nombreuses qu'au cinéma. L'auteur a en effet eu l'humilité de mentionner dans les remerciements des dernières pages toutes les personnes qui ont rendu ce roman possible. De ce geste, nous lui savons gré. C'est bien aussi toute cette équipe, riche de tant de talents divers, qui fait que nous pouvons parler des protégés de Saint-Klinga et que vous pourrez, si vous avez été intrigué ou convaincu, vous le procurer chez votre libraire préféré, pour peu qu'il ait maintenu sa porte entrouverte en cette période si improbable. Comme ailleurs, n'oublions pas tous ceux qui œuvrent dans l'ombre mais sont aussi indispensables que ceux qui sont en pleine lumière. Nous leur dédions modestement cette émission. Au plaisir de vous retrouver, lecteur tout aussi indispensable au monde du livre, très bientôt pour de nouvelles lectures, de nouvelles découvertes littéraires. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.